Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFEN & Co, AFEN & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 412 et on aborde un sujet important hein, qui fait partie de nos causeries, les causeries sur l'IA, pour avoir des points de vue différents qui permettent à chacun de se faire sa propre idée. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est une vraie opportunité? Autant de questions que chacun peut regarder à sa façon. Et aujourd'hui, on va aborder quelqu'un que j'ai découvert par hasard, mais j'ai adoré quelque chose et j'espère que vous partagerez mon avis. C'est quelqu'un qui a écrit un ouvrage, L'IA sans bullshit, qui vient de sortir et qui finalement a le sens des mots. C'est-à-dire, au lieu d'avoir simplement des choses à dire, il fait aussi l'effort de ciseler des mots, d'avoir des punchlines, des moments forts. Et donc, on sent le conférencier derrière. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir pour inviter Denis Atlan. Bonjour, Denis.
Hey, bonjour Stéphane.
Eh bien, Denis Atlan, alors on rentre directement dans le sujet. Pourquoi avoir écrit un bouquin de plus sur l'IA?
Alors, Stéphane, si tu veux tout savoir, en fait, ça m'a pris il y a à peu près 2-3 ans. J'ai un patron de PME qui m'appelle. Il me dit qu'il a acheté pour tester. Alors imagine-toi, il y a 3 ans, hein, des licences ChatGPT pour son équipe. Et si tu veux, 3 mois plus tard, il se rend compte que personne n'utilise rien. Et là, il me dit, écoute Denis, c'est là qu'est venue, si tu veux, une des fameuses phrases de mon livre. Il me dit, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai acheté une Ferrari, mais j'ai pas donné le permis à mes collaborateurs. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, que les outils, ils existent. Qu'il existe aussi des livres, que la plupart étaient tous en anglais, tous techniques, tous écrits par des chercheurs, quasiment pour des chercheurs, mais personne n'avait écrit encore un espèce de mode d'emploi pour le patron français qui a envie de faire tourner sa boîte le lundi matin. Et si tu veux, je suis rentré dans une librairie, je suis allé chercher des livres en français, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des choses accessibles sur le terrain? Est-ce qu'il y a des traductions américaines? Mais je trouve des bouquins vraiment liés au futur de l'humanité, sur des thèses déguisées en best-seller. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus.
Donc c'est plutôt un manuel sur lequel alors un élément important, c'est qu'il est quasiment gratuit.
Oui,
Et donc ça, bravo.
exactement. Merci. Alors en fait, je l'ai fait distribuer par des plateformes Team Amazon, mais quand on se connecte à mon site internet, à la base, je voulais que le savoir puisse être partagé par un plus grand nombre. Et donc, il y a un lien qui permet d'aller le télécharger au format EPUB, donc disponible sur n'importe quelle tablette numérique, qu'on soit Kobo, Amazon ou quoi que ce soit.
Donc, très très bien, donc ça c'est un beau geste. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un gros écart entre le fait de brasser des idées sur l'IA et le fait d'être pratico-pratique. Une étude vient de montrer que simplement 9% des entreprises l'avaient fait rentrer dans leur process, pas expérimenté, juste rentrer véritablement dans leur process. Est-ce que c'est pas effectivement aujourd'hui un phénomène de buzz que tout le monde utilise?
Alors, j'ai envie de te dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, et s'il y a des responsables de formation qui nous entendent, des chefs d'entreprise et tout ça, effectivement, ce n'est pas un buzz. En fait, si ça l'a été, ça ne l'est plus, parce que c'est quand même un outil à la base qui est rentré dans notre quotidien à titre personnel et qu'on a fait évoluer et dériver vers le monde professionnel. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment la capacité aujourd'hui à se lancer dans l'intelligence artificielle, eh ben, ils l'ont déjà quasiment tous. C'est-à-dire qu'on a des outils qui l'utilisent, on ne sait même plus qu'on utilise de l'intelligence artificielle. L'IA, elle est déjà maintenant dans Excel, parce que Microsoft a 49% des parts d'OpenAI, donc de ChatGPT. Et donc, on commence à rentrer, en fait, si tu veux, dans un phénomène où on est accompagné par des outils facilement déployables. Et c'est plus un buzz, c'est la vraie réalité. L'intelligence artificielle est là. Qu'elle puisse faire peur ou qu'elle puisse vraiment nous rendre fans, et ce n'est pas de la magie, hein, c'est de la science, elle est bien là et elle est bien sur le marché français 2026 et sur le marché international.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que finalement, ils ne veulent pas l'aborder parce que c'est aussi dangereux. Et beaucoup de personnes se disent qu'ils vont perdre leur emploi. Est-ce que finalement,
Ah.
ils ont raison d'avoir peur?
Oui, moi, complètement. Si tu veux, lorsque je fais des conférences, ça m'est arrivé de faire une conférence il y a 2 mois à Nantes, près de Nantes, devant 300 personnes. Et si tu veux, devant 300 chefs d'entreprise, et la première question qu'ils se posent tous, avant même que j'ai pris la parole, c'est en fait, est-ce que je vais perdre mon job? Et moi, je les regarde et je leur réponds, oui! La vraie question,
Excellent.
c'est pas est-ce que vous allez perdre votre job? C'est quand est-ce que vous allez le perdre? Et en fait, si tu veux, tu as aujourd'hui plusieurs types de profils. Tu as ceux qui ont compris que pour survivre, il faut être malin, et ceux qui se disent, bah, je vais attendre le changement. Attendre le changement, c'est très français. Être malin, c'est vraiment une capacité d'esprit. Et donc, ceux qui sont malins, c'est ceux qui se disent, comment je fais pour améliorer chez moi des compétences, pour ne pas me laisser bouffer, parce que, en fait, si tu veux, la compétition, elle a toujours existé dans notre monde. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil de compétiteur qui va permettre à des sociétés d'aller plus fort et à d'autres, effectivement, de déposer la clé et de déposer le bilan.
Alors, comme tu parlais des chefs d'entreprise, même eux vont être influencés. Quand on prend Paperclip, par exemple, qui dit bah, vous allez avoir une IA qui devient un chef d'entreprise avec d'autres IA. Et finalement, si le chef d'entreprise se dit au départ, ça me fait gagner de l'argent parce que je supprime des coûts dans mon entreprise, finalement, ça lui donne un tel vertige qu'il se dit, je ne sais pas par quelle boule prendre.
Alors là, tu touches quelque chose qui fait que les projets IA n'aboutissent pas tout. C'est comment je commence réellement un projet d'intelligence artificielle. Quand je suis une TPE, quand je suis une PME, je sais que j'ai un fiston, j'ai une fille, j'ai des potes, j'entends parler de ChatGPT, j'entends parler de Claude. Et c'est ça qui me dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose. Et effectivement, comment on prend un projet d'intelligence artificielle? La première des choses qu'il faut se dire, c'est que si je n'accompagne pas les humains qui sont dans mon entreprise, je vais tout planter. Parce que la peur, elle est humaine, la peur d'être remplacé, c'est humain. Et aujourd'hui, pour prendre un vrai projet d'intelligence artificielle et le mener à son bout, il y a plusieurs étapes à mettre en œuvre. Et la formation et la transmission du savoir, c'est la clé de tout projet IA.
Donc tu dirais première étape, former le dirigeant.
La première étape, si tu veux, c'est d'accompagner les personnes au changement. Si tu veux, il y a 20 ans, il y avait un truc qui s'appelait les pages jaunes. Et on nous disait, vous voyez ce bouquin-là? Oh là là, moi, je me suis mis dedans, jamais ça va s'arrêter. Et il y a un truc qui s'est appelé Internet, puis Google, puis finalement, ça a tué tout le monde. Donc, on a formé les gens au SEO, on a formé les gens au référencement. On a formé les gens à la communication. Et ben, l'intelligence, c'est la même chose, l'intelligence artificielle. Il faut les former sur qu'est-ce que ça a comme impact. Quand tu rentres une information, qu'est-ce que tu es capable d'en sortir? Quel type d'information tu dois rentrer? Est-ce qu'on met des data confidentielles ou non? Est-ce qu'on surveille derrière le résultat que nous donne cette intelligence artificielle? Si tu veux, tu as tout des plein de processus à mettre en œuvre. On pourra en parler si tu veux dans cette émission, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'accompagnement de la personne pour dire je vais vous mettre en fait un outil surpuissant, je vous donne quelque chose et vous êtes Superman et vous allez pouvoir l'utiliser et si vous le faites pas, ben vous allez vous prendre la kryptonite en pleine tête, et ben c'est exactement ce qui se passe. Et donc si tu n'as pas d'accompagnement sur quand tu appuies sur ce bouton, qu'est-ce que ça va déclencher chez toi, chez ton entreprise et également chez les gens que tu fédères, et ben là bah, tu vas dans le mur. Et si tu le prépares et que tu fais en sorte que les personnes qui collaborent avec toi ont envie d'avancer dans ce projet, eh ben, en général, ça fonctionne. C'est l'une des premières pierres qui fait que ça va fonctionner.
Alors, comment est-ce qu'on prépare? Parce qu'il y a un frein qui est organisationnel. Toutes les grosses entreprises, les administrations, tous les dirigeants ont été formés quasiment. Ils savent tous utiliser l'IA, ils sont tous à l'aise. Donc, ça veut dire qu'ils ne veulent pas être dépassés et ils ont conscience de l'urgence. Le problème, c'est quand ils doivent démocratiser et de dire, bah, si je donne autant de pouvoir à la base, bah, je perds toute l'organisation et je perds tous les outils de contrôle. Donc, je ne suis plus le patron, quoi. Et c'est une vraie crainte qu'on retrouve.
Alors, déjà, je peux te dire une chose, le nombre de formés, ils ne sont pas tous formés. Je vois bien,
Il y a de la
j'accompagne,
marge.
ah oui, et la marge, elle est, mais démentielle. C'est-à-dire qu'en général, dans une entreprise, Plus c'est gros, plus c'est compliqué. Tu as un chef, tu as des sous-chefs, tu as des sous-chefs de sous-chefs. Et à un moment donné, ces personnes-là, en fait, cette entreprise, elle a des maillons. Plus c'est gros, plus il y a des maillons. Donc, si tu formes pas l'ensemble des maillons, c'est très compliqué. Pour moi, former une personne à l'intelligence artificielle, c'est pas lui dire, tiens, voilà ce que tu peux faire avec ChatGPT, regarde, ça t'a enlevé les fautes d'orthographe, parce qu'il faut savoir quand même que le premier usage en entreprise, pourquoi les entreprises déploient l'IA en France, c'est les fautes d'orthographe. C'est le premier usage. Le deuxième usage, quand les entreprises veulent déployer l'IA, c'est comment on fait pour enlever les émotions négatives des services clients. Imagine-toi, Madame Tartempion, qui appelle 50 fois une entreprise pour un service qu'elle n'a pas. À un moment donné, le téléprospecteur, le conseiller financier, ton conseiller en téléphone ou quoi que ce soit, il craque. Parce qu'on est tous humains. Et
Bien
donc, à un
sûr.
moment donné, l'intelligence artificielle, ça va niveler ça. Au lieu de dire, Madame Duchemol, vous me prenez la tête, l'IA, elle va lui demander de répondre, chère Madame, suite à votre
Ouais.
demande. Et donc, si tu veux, il va falloir former ces chefs d'entreprise, former aussi tous ces maillons. Et très honnêtement, quand tu me dis qu'ils sont tous formés, moi je te le dis, hein, on n'en est peut-être qu'à 7 à 10% qui sont réellement formés sur les usages de l'IA. Et là, tout le monde en entend parler. Tu entends plein de gens dire, viens avec moi à Dubaï, tu vas gagner 10 000 euros par mois, etc. Tout ça, c'est faux, c'est du pipeau. Déployer de l'automatisation. Déployer, si tu veux, une solution N8N avec des workflows, etc. C'est pas déployer de l'intelligence artificielle avec une tâche qui va se faire en automatique, avec des personnes derrière qui contrôlent. Donc, si tu veux, pour moi, les Français déjà, ils sont pas suffisamment formés. Et là, il y a déjà un gros travail à faire.
Tu as un comparatif avec d'autres pays, comme par exemple les États-Unis ou l'Afrique, qui n'est pas du tout l'image qu'on a avec l'usage de l'IA, hein. Donc, tu as un peu des éléments pour dire qu'on n'est pas si bon que ça en France?
Alors, je crois que les dernières stats, je crois que l'adoption de l'IA dans le monde, je crois que la France est cinquième. Tu vois, tu as les
D'accord.
États-Unis, je crois qu'ils sont premiers, je crois que tu as la Chine et le Japon qui sont deuxièmes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est récupérer les tendances de ces pays qui font un petit peu tout avant les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils font tout bien, mais ça veut dire que comme ils sont en avance, si tu veux, ils testent des choses. Pour le marché africain, je pense qu'en fait, que, étant donné que c'est un marché où ils n'ont pas grand-chose, eux, ils sont prêts à aller de partout.
Oui,
Donc, en fait, si
exactement.
tu veux, il n'y a pas de frein éthique dans la tête en se disant oh là, si je le déploie, je risque de faire perdre du boulot. Quand tu n'as rien, tu n'as rien à perdre. Et donc, eux, c'est un marché très émergent qui suit. Mais le marché que moi, je suis beaucoup, c'est le marché asiatique et le marché américain. Où effectivement, tu vois les entreprises comme OpenAI et Anthropique et toutes les autres sortir quasiment tous les jours. Mais ce que j'appelle moi des dingueries. C'est-à-dire que le cerveau humain n'est pas adapté à la vitesse d'évolution sur laquelle un certain nombre de produits sur l'intelligence artificielle sort. Et ça, ce qui est assez fou. Pour ton audience qui nous écoute, tes responsables de formation. En fait, il faut aller à une vitesse, il faut s'auto-former quasiment en permanence pour garder le niveau et pas raconter des bêtises. Et ça, c'est très dur parce que si tu veux, on n'est pas dans un domaine d'activité dans lequel tu as une information tous les 6 mois qui change. Là, ça change quasiment toutes les 24 à 48 heures. Et ça, c'est très compliqué à suivre le rythme.
Mais s'auto-former quand on doit l'organiser, ce n'est pas facile à faire parce que déjà,
Non.
il y a certains profils, quand les gens ont fait des études, par exemple, ils ont des facilités pour se former tout seul et s'auto-former. Il y en a beaucoup qui disent, si on me forme, bah, je veux bien le faire, mais c'est à la société d'organiser les choses et ce n'est pas à moi en bas de l'échelle, puisqu'on me respecte, qui vais apprendre tout seul sous prétexte que c'est pour mon bien, quoi. Donc comment tu fais pour
Alors,
motiver tout le monde, quoi?
je vais répondre déjà à ce que tu viens de dire et c'est très vrai. J'ai eu une interview d'un grand journal français qui pensait qu'effectivement ça venait du bas, mais pas du tout. En fait, si tu veux, la formation, elle doit venir de la tête pensante et du chef d'entreprise. C'est vraiment le patron. Alors, quand je dis chef d'entreprise, c'est à tous les niveaux. Ça peut être le patron de la business unit, ça peut être effectivement le CIO, ça peut être le DG, ça peut être un très gros responsable formation qui a du poids dans l'entreprise. C'est à lui, en fait, si tu veux, d'être novateur et de se dire comment je fais pour accompagner le changement et comment je fais pour que mes équipes ne soient pas obsolètes. Et donc, c'est lui qui doit infuser un message pour dire, voilà, il y a des choses qui se passent. Est-ce que je vais vérifier que les niveaux de mes collaborateurs sont toujours bons? C'est un peu comme la révision de ton contrôle technique pour une voiture tous les 3 ans. À un moment donné, ton responsable formation, ton patron, c'est à lui d'insuffler ça et de le mettre en place. Ensuite,
Et d'organiser peut-être des communautés apprenantes pour décentraliser
ouais,
le
alors
processus.
en fait, j'ai envie de te dire, peu importe tant que ça marche. Si c'est une
D'accord.
communauté apprenante, ça peut être un club, ça peut être plein de choses. À partir du moment où en fait il a ensuite ce que moi j'appelle l'adhésion du collaborateur. Parce que quand tu n'as pas d'adhésion, et ça c'est vraiment très français, en fait on va tout bouder. On est le premier à faire la grève avant même d'avoir entendu ce qu'il y avait à dire. Donc le collaborateur, si tu vas pas un peu lui faire ce que j'appelle un peu de la vente de job, si tu vas pas un peu le séduire pour lui dire, regarde, de toute façon, avec ou sans moi, tu en as besoin de cette compétence. Dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, tu peux le faire avec moi. Tu vas peut-être changer de job, tu vas peut-être faire plein de choses, mais viens te former. Ça va te permettre d'améliorer tes compétences. Le savoir-être, ça reste comme il est, mais tu vas pouvoir améliorer tes compétences. Et si on arrive à séduire le collaborateur ou la collaboratrice, eh ben, c'est gagné. Et tu as de la chance aussi dans les entreprises françaises d'avoir des collaborateurs qui viennent pousser leur responsable formation, qui
C'est
viennent
bon.
pousser un peu leur chef d'entreprise. Et s'ils ne font pas, et ben là, il y a un phénomène, je crois, que tu as déjà abordé dans ton podcast, qui est finalement un peu le shadow IA. Si tu veux, c'est le collaborateur qui prend un petit abonnement ChatGPT dans son dos, qui finalement dit, bon, je suis pas écouté, ben je vais faire des choses un peu dans mon coin. Il fait des trucs. Et puis, il est félicité. Et ça, pour moi, c'est assez malsain. Parce qu'il se déclenche quelque chose, si on arrive à la partie psychologique, moi, c'est quelque chose que j'aime bien aborder dans mes conférences, c'est qu'est-ce qui se passe en termes cognitifs et qu'est-ce qui se passe en termes de psychologie. Eh bien, des fois, tu as un espèce de syndrome de l'imposteur qui arrive. C'est-à-dire le collaborateur, waouh, tu as réussi à faire ça, ses collègues demandent, et puis finalement, à la fin, lui-même se dit, bah, en fait… J'ai juste généré un truc, j'ai pris un prompt, j'ai généré ça, mais c'est vraiment moi qui ai fait ça. Et donc, tu peux avoir un espèce de syndrome de l'imposteur, et ça doit être accompagné par le responsable de formation, ça doit être accompagné par, si tu veux, le chef d'entreprise ou la business unit, parce que l'intelligence artificielle, et je le rappellerai toujours, c'est une machine. Et si tu veux, j'en ai parlé avec un professeur spécialisé dans l'analyse du cerveau humain et du cognitif. Quand tu as une IA comme Claude ou ChatGPT, je prends ces grands exemples hein, parce que c'est les
Bien
plus
sûr.
connus, quand tu poses une question, l'IA te répond, je suis en train de réfléchir. C'est du bourrage de crâne. La réflexion, elle est humaine. Quand l'IA met, je suis en train de réfléchir, on essaye de te faire croire qu'il y a quelque chose d'humanisant qui est derrière, et alors que pas du tout.
Alors justement, puisque tu abordes le sujet des neurosciences, une des grosses critiques qui est portée sur l'IA, c'est l'extériorisation des savoirs, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis bah, pourquoi j'apprends des trucs, j'ai qu'à demander à l'IA. Et à la fin, j'ai plus rien. Donc à la fin, je suis un peu idiot, parce que j'ai plus grand-chose dans la tête, mais je sais que je peux. Il suffit d'être connecté pour que j'ai l'information de bonne qualité, quoi.
Alors là, tu touches un sujet qui est extrêmement important et il faut savoir que le cerveau humain se construit jusqu'à l'âge de 25 ans. Effectivement, il y a eu des études hein, sur le cerveau humain et notamment sur une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et moi, il y a quelque chose que j'avais écrit dans mon livre ou dans un autre livre qui s'appelle Génération Algorithme, qui parle du cerveau humain à l'ère des enfants. En fait, si tu veux, il y a une vingtaine d'années, on avait fait des analyses sur le cerveau des taxis à Londres et on s'était rendu compte avant le GPS, t'imagines le truc, qu'en fait, ces personnes-là, elles avaient une partie de leur cerveau qui s'appelait l'hippocampe qui était super développée parce qu'ils connaissaient les rues par cœur de la totalité de la ville de New York, de San Francisco, etc. Et
Deux
là,
fois
ce
plus
qu'on s'a.
important.
Ah oui,
Oui,
c'était
exactement.
juste fabuleux. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que à partir de l'âge déjà de 10-11 ans, moi j'ai deux filles hein, qui ont 9 ans et 11 ans, dans la classe de ma fille, CM2, à 11 ans, sur 30 élèves, tu en as 25 qui utilisent ChatGPT.
D'accord.
Et donc, tu as même maintenant des professeurs qui demandent des travaux à l'âge de 11 ans et qui disent surtout, essayez de faire ce travail vous-même et ne pas vous aider de l'intelligence artificielle pour commencer à réfléchir par vous-même. Mais en fait, c'est donner un super pouvoir à un gosse et lui dire, en clair, j'ai un super pouvoir, mes parents l'utilisent, pourquoi je ne le ferais pas?
Ben
Alors, imagine-toi ce qui se passe aujourd'hui dans le cerveau. Bah justement des étudiants, on a vu là tout récemment
alors,
certains discours.
tous ceux qui ont des enfants, tu dirais, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel, en deçà duquel, il ne faut pas utiliser l'IA, ou tu dis, quel que soit l'âge, c'est pas gênant?
En fait, si tu veux, si tu fais apprendre à ses enfants la manière dont fonctionne l'intelligence artificielle, je trouve ça malin. Parce que c'est une technologie avec laquelle ils vont vivre avec. Mais fournir l'information et lui dire, écoute, à un moment donné, mon fils, tu as eu un problème avec ta copine, demande à ChatGPT. Non. En fait, on est sur de la relation humaine, on doit travailler. Notre enfant, il a des sentiments. Il y a un truc que fait l'IA et que moi, je mets vraiment en garde les parents, c'est l'empathie algorithmique. C'est-à-dire qu'on entend parler que l'IA, elle est toujours d'accord avec nous, mais ce qui va encore plus loin, c'est qu'en termes d'émotion, elle est ultra puissante, cette IA. Et l'empathie algorithmique, c'est faire croire qu'on est d'accord avec nous dans nos sentiments, dans notre âme et conscience. Donc, moi, ce que je dis aux parents, pour revenir à ce que tu me demandes, c'est oui, il faut accompagner les enfants là-dedans, mais si le parent, il n'est déjà pas accompagné à son niveau, s'il n'a pas une boîte qui l'accompagne, il ne va pas savoir l'accompagner correctement. Donc, c'est une technologie qu'il faut pouvoir maîtriser, qu'il faut pouvoir limiter, et surtout, il faut que notre cerveau ils puissent réfléchir. Il y a plein de neuroscientifiques qui s'alarment sur le fait qu'on est en train de devenir stupide. Et ça me fait penser à un film qui est sorti il y a 15 ans qui s'appelle Idiocratie. À un moment donné, si on ne réfléchit pas, ça ne fonctionne pas. Et je dirais encore plus une chose pour les responsables de formation qui nous écoutent, c'est un métier qui ne va pas disparaître. Si le responsable de formation, il est malin, il crée de l'interaction avec ses stagiaires et qu'il s'aide de l'IA, il va être super plébiscité. Plus tu es intelligent et tu es malin, plus l'intelligence artificielle va te rendre des réponses qui sont malignes. Donc,
Alors,
bien évidemment qu'il faut se former.
comment tu fais pour développer, parce que soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est la même chose, enfin, à des niveaux
Oui,
différents, bien sûr,
oui.
mais comment est-ce que tu fais pour développer ce qu'on appelle le sens critique? Tout le monde dit qu'il faut développer le sens critique, mais quand tu dis ça marche et c'est rapide, le résultat me plaît, je ne vais pas m'embêter à me poser des questions métaphysiques chaque fois, quoi.
Alors, déjà, la première des choses qu'il faut se dire, c'est que la lecture d'informations et de livres, c'est la base de tout apprentissage. Pourquoi je te dis ça? C'est que je crois qu'un Français moyen, quand il commence à correctement parler, je crois qu'il connaît, alors j'ai plus le nombre exact, hein, mais je crois qu'il connaît 5-6 000 mots. Et quand tu
D'accord.
as un vocabulaire d'environ 9 000 mots, en fait, tu es vraiment très intelligent. Et pourquoi c'est important ce que je te dis? C'est parce que l'intelligence artificielle, elle fonctionne sur le même principe de mots. En fait, quand tu vas prompter ton IA, c'est-à-dire quand tu vas lui donner une instruction, le mot que tu utilises, il est connecté à tout un environnement de mots qui sont connexes. Et genre, exemple, si tu lui dis par exemple, agis comme un avocat, eh ben, le mot avocat, pour l'intelligence artificielle, lui, il va entendre loi, droiture, écrit, dur. Il va entendre plein, plein de choses. Et donc, lui, il a la connexion avec tous ces mots. Sauf que toi, en tant qu'humain, si ton savoir est limité, si tu es limité sur la qualité de tes mots, eh ben, tu vas limiter ta compétence dans l'intelligence artificielle. Donc, je pense que très honnêtement, la lecture, s'enrichir de livres et s'auto-former pour pouvoir être plus malin, c'est super important. Et il y a une chose sur laquelle ce n'est pas de la compétence et c'est du savoir-être, c'est que si tu n'es pas curieux, en fait, ça fonctionnera jamais. Donc, moi, j'ai envie de te dire, La règle, c'est de se dire, allez, tous les 1 mois, je me lis un ou deux nouveaux livres dans tel domaine et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et ça va enrichir ta culture personnelle et tu seras beaucoup plus proactif quand tu vas mettre en place du prompt dans l'IA. Pour information, en 2025, je crois que j'ai lu 79 livres.
Ah, très bien.
Tu vois?
Mais ce qui est rare, justement, et aujourd'hui, quand on voit les livres qui sont lus, il y a de moins en moins de livres qui sont lus. Et les livres, quand ils sont comptabilisés, c'est beaucoup de BD, des choses comme ça.
Ouais.
Donc, ce ne sont pas des livres de réflexion. Est-ce que ça veut dire que bah, c'est fini?
Je pense pas que ça soit fini. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, le marché, il est. Si tu veux, le monde aujourd'hui est tellement dans un brouillard numérique qu'on comprend plus rien. Je t'explique ce que je veux dire. Si tu veux, il y a 20 ans, pour moi, on était dans un brouillard numérique. Il n'y avait pas d'Internet. L'information, c'était simplement la télévision, il fallait l'allumer, on avait les news à J plus 1, J plus 2, J plus 3, on lisait du journal. En fait, c'était les seuls moyens d'acquérir de l'information. Internet arrive, l'intelligence artificielle arrive, et 20 ans après, on est dans un nouveau brouillard. Mais sauf que là, ce brouillard, c'est de la super information. On fait plus la différence entre la fake news, Macron qui se balade avec Trump, tu as des images qui sont générées, tu les regardes aujourd'hui, on est quasiment obligé de regarder l'iris de la personne pour savoir si c'est de l'IA. Il y a plus 6 doigts, le visage il est parfaitement fait, les conversations sont bonnes. En fait, on a tellement d'informations que notre cerveau, il est passé d'une non-information à une super information, mais il reste toujours dans le même brouillard. Moi, je pense que le bon plan, c'est quand même aller aujourd'hui dans un magasin, d'aller regarder ce que fait les auteurs, d'aller d'être curieux, d'aller rechercher par soi-même. Tu vois que Google est en train aujourd'hui de supprimer la recherche standard pour passer sur de la recherche avec l'intelligence artificielle. En fait, on contrôlera plus ce qu'on va rechercher. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on soit conscient que si on veut pas être un robot, et qu'on n'a pas envie de nous dire tout le temps quoi faire, eh ben il faut un peu qu'on retourne un peu dans les magasins physiques, qu'on aille parler aux commerçants, aux vendeurs, qu'on aille voir des livres sur les étagères, qu'on les bouquine, puis qu'on se dise, tiens, ça a l'air de plaire. Donc c'est un vrai travail de s'auto-éduquer, exactement comme le sport, en se disant, ben si j'entraîne pas mon sport, j'entraîne pas mon corps, eh ben à un moment donné, je peux peut-être avoir mal au genou, je vais peut-être avoir des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc, en prenant soin de son cerveau, on va prendre soin également de son corps. Et je pense que c'est une vraie gymnastique à faire. Et très honnêtement, moi, j'aimerais qu'il y ait des cours qui soient donnés à l'école, sur ça, sur l'intelligence artificielle, sur le fait de réfléchir par soi-même.
Est-ce que tu penses que c'est de la responsabilité des entreprises de porter ce projet?
Je pense très honnêtement que c'est une responsabilité, d'État. Derrière chaque entreprise, il y a monsieur et madame tout le monde. Tu vois que tu travailles en B2B ou que tu travailles en B2C. Je pense que la boîte qui fait ça, c'est une boîte maligne. C'est une société qui a compris qu'à un moment donné, avec cette génération Z, avec tout ce qui se passe, avec l'ère post-Covid, tu retiens plus les gens qu'avec un salaire. Tu retiens les gens parce qu'il y a un projet. Et ce que fait l'intelligence artificielle, et je le vois dans certaines entreprises, c'est qu'elle automatise un certain nombre de choses, elle automatise un certain nombre de tâches, des tâches qu'on dit maintenant chronophages, mais des fois, dans certaines boîtes, elle automatise ce que la personne aimait faire. Et à mon sens, si tu veux, quand tu n'aimes plus faire un certain nombre de choses et que tu es lasse de le faire, bah, tu t'arrêtes et tu changes. Et je pense que si la boîte aujourd'hui, elle met en place un pacte humain, c'est marrant, mais mettre en place un pacte humain pour l'IA, bah, je pense que c'est des boîtes qui vont garder leurs collaborateurs et ce serait une très, très bonne idée de leur part.
Parce que aussi une des grosses tendances qu'on voit apparaître dans la littérature, c'est le fait de dire que finalement l'IA pourra tout faire à terme, avec l'IA physique, etc. Donc l'homme n'aura plus besoin de travailler et autant lui donner un revenu universel. Et donc comme ça, il ne travaille pas, mais il a de l'argent. Enfin, tu
Ah là
dis,
là.
et certains disent c'est une très bonne chose, parce qu'ils sont altruistes et ils peuvent devenir bons si on suppose que l'homme est bon naturellement. Voilà.
Waouh, tu vois le revenu universel, je crois que Je crois que c'est le Parlement anglais qu'on a parlé il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose qui est lancé. Merci à notre ami Elon Musk pour tout ça.
Et Sam Altman aussi l'a testé avec son propre argent, donc il est assez fier des résultats en disant que ce n'est pas absurde du tout. Donc ce n'est
Non,
pas que
c'est.
des politiques.
Alors, c'est pas absurde, si tu veux. C'est juste que, économiquement parlant, je vois pas comment ça peut fonctionner. L'histoire du Parlement anglais, je crois que c'était un parlementaire qui disait, eh ben, en fait, tout emploi qui va être supprimé par l'IA, on devrait imposer une taxe aux GAFAM pour pouvoir, en fait, faire en sorte que ça soit le GAFAM qui paye le salaire, pourquoi pas, par exemple, du développeur. Il y a 8 ans, on a demandé à tous les jeunes de commencer à faire des études de développement informatique. Aujourd'hui, ils sont tous à la masse. Donc, effectivement, de leur dire, on va vous donner à vous un revenu universel, c'est un peu mettre les gens dans une case et de leur dire, vous savez faire que ça. Mais heureusement que nous, les humains, on sait faire plein de choses. Alors, accompagner le changement, je suis d'accord. Donner peut-être pendant un temps un revenu pour
De
permettre aux
formation.
gens de se former exactement. Ça serait forcément quelque chose de topissime. Parce que oui, il y a des emplois il y a des emplois qui vont mourir, mais bien évidemment, il y a des emplois qui vont se créer. Je te donne un exemple tout bête que j'ai entendu hier et que j'ai vu sur LinkedIn. Il y a une start-up chinoise qui est en train de développer un collier pour animaux et qui est en train de se dire, on va être capable aujourd'hui de pouvoir parler à son animal grâce à l'intelligence
Ouais,
artificielle.
j'ai vu.
Et là, je me dis, t'imagines ce truc? Je me dis, t'imagines si aujourd'hui le collier, il est capable de dire que notre chien, en fait, on l'a frappé, il a froid, il n'a pas envie de demander à manger, etc. Un animal, pour le droit français, pardon, c'est un meuble. Comment tu pourras dire qu'un chien qui est capable de sentiments, d'émotions, et qui va te le dire, sera gardé comme un meuble? Est-ce que le droit va pas changer à cause de l'IA? Est-ce qu'il n'y a pas un métier de psychologue pour humain qui va changer. Donc, il y a des emplois qui vont être perdus, il y a des emplois qui vont être créés. Je pense que de dire qu'il faut un emploi universel pour l'intelligence artificielle, c'est ouvrir une porte qu'on ne maîtrisera plus. Il y aura trop de dérives. Par contre, dire aux gens, sur ces métiers-là, il n'y a pas forcément de débouchés parce qu'il y a une machine qui va le faire mieux que toi et nous, on a besoin de compétences dans tel ou tel domaine, ça serait intéressant de le faire.
Laurent Alexandre a un regard complémentaire en disant que si on supprime tout le travail qui socialise les gens, qui leur donne des projets, des envies de se dépasser, bah les gens deviennent alcooliques ou cocaïnomanes parce que finalement ils s'ennuient dans la vie. Et donc en fait, il faut les réenchanter pour faire des projets. Et donc il faut les socialiser.
Complètement.
Alors
Si tu veux,
j'avais une
oui.
question complémentaire en disant qu'une remarque qui revient souvent, étant parlé avec cet exemple chinois, c'est le fait de dire que c'est. Eric Schmidt dit il y aura les Chinois et les États-Unis qui vont maîtriser l'IA. Et au milieu, pour nous, quelle est notre souveraineté? Qu'est-ce qu'on en fait? On est voué à être dépendant?
Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qui a été posée il n'y a pas très longtemps par le fondateur de Mistral, Mistral AI,
Absolument.
hein, français. Et effectivement, alors tu vois, la souveraineté, c'est souvent un concept que les gens ne comprennent pas. Et c'est important, tu vois, peut-être dans cette émission, juste en quelques secondes, d'expliquer que la souveraineté et la confidentialité des données, c'est complètement deux choses différentes. La confidentialité des données, c'est qu'on fournit des datas et ces datas, elles partent. En fait, sur des serveurs, et ces serveurs, ils ont une localisation géographique. Et la souveraineté des données, c'est en clair qui contrôle le serveur, à qui appartient la machine dans laquelle on va pouvoir utiliser ces data pour entraîner la machine et pour générer un certain nombre d'informations. La souveraineté, c'est le pouvoir. Effectivement, la Chine et les États-Unis, la plupart des data et la plupart des intelligences artificielles type LLM, Notebook LM, Google, Gemini, ChatGPT, OpenAI, Claude, sont des IA américaines. Et je crois qu'il y a un vrai projet aujourd'hui de créer en fait un système européen pour faire en sorte que nos data nous appartiennent parce que le savoir, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, qu'on soit complètement clair, quand on dit nos serveurs sont en France, on est chez OVH ou quoi que ce soit, en fait, c'est vrai, mais c'est faux en même temps. Parce que tous les prestataires qui sont entre la connexion, la fibre, le serveur, etc., ils sont tous américains. Et
Et comment
donc,
t'expliques qu'il n'y a pas une filière IA plus puissante, IA ou européenne, en France, alors que finalement, on avait quand même des ingénieurs, on est des gens de qualité. Est-ce que c'est fini pour nous, ça?
non, je pense pas, mais en fait, on a en France des génies également en Europe. Sauf que si tu veux, le génie français, il n'est pas payé. C'est un passionné. Tu vas en Chine, tu vas aux États-Unis, tu as un salaire. Et là, à un moment donné, on parle à l'humain. C'est bah, l'humain, il a quand même besoin de gagner sa vie. Je veux dire, on ne veut pas tous partir au Club Med et rouler en Porsche, mais on a quand même envie de payer correctement ses factures, pas regarder ce qu'on achète, etc. Et donc, en fait, cet exode de savants, bah, c'est parce qu'on les attire ailleurs. Et moi, je suis déçu de tout ça parce qu'on a des compétences en France qui sont juste exceptionnelles. Et j'espère vraiment qu'on va faire quelque chose pour le marché européen, pour pas perdre ces cerveaux qui partent et qu'on va les payer. Mais pour ça, il faut qu'on débloque des crédits, il faut qu'on fasse des choses. Alors, déployons des mini centrales nucléaires en Europe parce que qu'on se le cache pas, hein, y a pas d'électricité, il n'y a pas de power. Il n'y a pas d'IA. On parle souvent de la data. Vous n'avez pas de data, vous n'avez pas d'IA. Mais moi, je te dis, si tu n'as pas d'électricité, tu n'as rien du tout.
C'est un gros atout de la France qui a une énergie décarbonée avec le nucléaire.
Exactement. Exactement. Et ça, c'est fabuleux. On va pas parler de politique ou d'armement. Mais il y a quelque temps, on disait, ce qui est quand même incroyable en France, c'est que tous nos avions, ils n'ont pas le logiciel américain et on peut les envoyer partout en France. On peut les envoyer partout dans le monde. Et ça, c'est un vrai fer de lance français. Et pareil, pour cette partie énergie, c'est génial qu'on puisse contrôler aujourd'hui notre marché, mais on devrait accélérer là-dessus et pouvoir développer beaucoup plus de data centers et de sociétés spécialisées dans l'IA en France, voire même en Europe.
Donc toi, tu es plutôt positif et dynamique en disant on a l'énergie pour faire ça en France.
Ouais, on peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire.
Voilà. Parce qu'effectivement, la souveraineté, c'est important. On l'a vu par exemple comment Microsoft, face au procureur du tribunal international qui n'est pas reconnu par les États-Unis, qui avait condamné Netanyahou, Microsoft lui a retiré son compte Outlook pendant 24 heures. Ben, qu'est-ce qu'il fait s'il n'a plus ses données, son historique, etc. Donc
Exactement.
c'est un vrai problème de souveraineté. Ben sinon, on leur laisse prendre nos données, les gérer comme eux le sentent, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est une vraie question, est-ce que la France peut refaire ce qu'elle a fait dans l'histoire, c'est-à-dire recomposer des vraies filières, ou est-ce que c'est l'Europe qui doit le faire? Le rapport Draghi en parle. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. En formation, comment toi tu conseillerais de débuter? C'est un responsable de formation qui se dit, bon, l'IA, moi, tout le monde est d'accord pour dire que l'IA, c'est hyper important. Comment je fonctionne? Je démarre par quoi? Je forme des managers, je forme des formateurs. Première étape pour un responsable de formation qui a de l'autorité dans l'entreprise.
Alors, moi, je dirais que la première étape, c'est de comprendre où veut aller l'entreprise. En fait, si tu veux, le responsable de formation, il doit faire partie, pour moi, du CODIR. Il doit faire partie du top management pour être inclus dans les décisions de l'entreprise. Parce que si à un moment donné, il ne sait pas où veut aller l'entreprise, il ne pourra pas donner les bonnes directives et choisir les bons prestataires pour faire monter en compétence ses équipes. Donc déjà, la première des choses qui doit se battre, c'est de se dire, Monsieur le DG, Monsieur le PDG, cher patron, inclus-moi dans ce que tu as envie de faire. Ne me parle pas de moyens, parle-moi de résultats. On parle de résultats, on sait où l'entreprise veut aller, le responsable de formation a entendu où est-ce qu'il doit aller, et ensuite, il va pouvoir créer une route. C'est-à-dire qu'il a la lettre Z et c'est à lui de passer par la lettre A, B, C, D, etc. Pour pouvoir faire tout ça, pour moi, la deuxième étape, quand tu veux déployer un projet IA, c'est de créer un petit pôle qui a envie. Et donc là, pour moi, il y a deux choses qu'il va devoir identifier. C'est la compétence chez les gens, mais surtout, c'est l'envie. Parce qu'une personne très compétente qui n'a pas envie de mettre de l'IA, ça ne marchera pas. Et une personne qui a envie mais qui a zéro compétence, ça ne marchera pas aussi. Donc là, si tu veux, Je pense que ton responsable de formation, il a un rôle, mais tellement stratégique dans l'entreprise, il doit bosser avec le service ressources humaines pour dire, OK, toi, en tant que service, qui c'est que tu as vu comme pépite de l'entreprise? Tu vois, alors là, je te parle vraiment très grande boîte, hein, je ne te parle pas de la PME de 50, mais je te parle très grande boîte parce qu'en général, c'est là-dedans que sont les responsables de formation, hein, sinon, c'est monsieur tout le monde et personne. Souvent, c'est le DG qui fait responsable de
Bien sûr.
formation dans une TPE, une PME. C'est en clair, c'est quoi les personnes que tu sens bien quand tu as fait ton rendez-vous annuel, etc. Il identifie les bons profils, si tu veux, un peu comme un coach qui doit choisir un peu son cheval de course. Et après, il choisit une équipe pour mettre en place un projet IA pour lequel on va lui permettre de mesurer le ROI. Et si tu n'as pas de mesure du résultat, ton projet est voué à l'échec. Et donc, on va se dire, OK, on a un mini-projet. Et ben pour ce mini-projet, et ben il faut qu'on fasse monter en compétences les personnes. On va devoir les faire monter en compétences déjà, ne serait-ce que pour les démystifier sur l'IA. Donc, on va prendre un expert IA qui va donner envie aux gens. On va peut-être prendre un spécialiste de la base de données, un spécialiste du cerveau numérique. Et en fait, si tu veux, pour choisir le bon prestataire et choisir ce qu'il doit développer, il doit passer pour moi par toutes ces étapes. Et c'est un vrai chef d'orchestre. À l'heure de l'intelligence artificielle, cette personne et ce profil-là, pour moi, c'est un profil complètement clé. Et ça serait le sous-estimer. Et s'il y a des entreprises qui nous écoutent, former les responsables de formation avant de former ces équipes, c'est la première des choses à faire.
Et comment toi
Comme on dit,
tu vois?
tu
Oui,
sais,
bien
en
sûr.
anglais, les Américains, ils disent souvent train the trainer, c'est-à-dire forme le formateur. Eh ben,
Oui,
c'est
bien
très
sûr.
vrai aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle.
Et d'autant plus que le formateur dans l'entreprise a une autorité. C'est-à-dire, les gens, si le formateur me montre et finalement, par mimétisme, il est à l'aise et que je vois ce qu'il fait, finalement, j'apprends beaucoup plus vite parce qu'il y a quelqu'un qui montre que c'est important de l'intérieur.
Exactement. C'est ce
Mais
qu'on
comment
fait
tu.
maintenant. C'est ce qu'on fait maintenant avec les enfants. Tu sais, je fais la petite aparté, mais
Oui, bien sûr.
quand t'es parent et que tu dis ne mange plus sur le canapé, bah ça marche pas.
Ben,
Le mieux c'est de pas
ben.
manger sur le canapé. Et du coup,
Exactement.
l'enfant voit que tu manges plus sur le canapé. Bah tu vois, en fait, ton papa ou ta maman c'est déjà ton formateur. Et le formateur, s'il est à l'aise, qu'il est compétent et tout ça, eh ben il va vraiment faire monter l'entreprise. Et oui, c'est un très très bon poste clé.
Alors justement, comment est-ce qu'on choisit un prestataire? Parce qu'aujourd'hui, des gens se disent, moi, je suis spécialisé à LLM. Depuis ChatGPT, donc ça fait 3 ans et demi. Quels sont les critères? Tout le monde se dit spécialiste maintenant.
Oui, c'est vrai. Alors, j'ai envie de te dire que la norme, je ne fais pas de la pub, hein, mais la norme Calliope, tu sais, les responsables de formation, ils connaissent. Hein,
Bien
on
sûr.
a, on a aujourd'hui des entreprises, toutes les entreprises françaises cotisent plus ou moins hein, à son OPCO, donc les cinq grandes OPCO. Tu as une norme qui s'appelle Calliope. Calliope, ça te permet de prendre en charge ton fonds de formation. Ce que j'aime bien, quand tu choisis un prestataire Calliope, puisque tu peux choisir un partenaire qui n'est pas Calliope, avoir son numéro d'OF, c'est une chose, être OF et avec Calliope, c'est une autre chose. Ce que j'aime bien avec Calliope, c'est qu'en fait, tu vas respecter déjà, ton prestataire, il va respecter un processus. Et là où tu as raison, Stéphane, c'est que le processus, par contre, ne fait pas la qualité de la formation. C'est-à-dire que quand tu as un auditeur Calliope, si tu fais de la formation sur du thermonucléaire, le formateur, il n'y comprend rien. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que tu as relancé ton client, est-ce que tu lui as envoyé un email, comment tu l'as audité, comment tu as vu son besoin. Donc ça, c'est la norme Calliope. Maintenant, comment tu vas choisir un prestataire qui est adapté à toi? Je pense que le plus simple, et tu peux le préparer avec l'intelligence artificielle, tu pourrais préparer un certain nombre de 5 à 10 questions type spécialisées pour toi, pour ton entreprise, par rapport à ce que tu as détecté. Parce que ça veut dire qu'en tant que responsable de formation, bah, bien évidemment, tu as fait le petit jeu qu'on a fait ensemble. Tu as été au conseil d'administration, tu as vu ton RH, tu as fait ton truc, tu as compris ce qu'il fallait faire, tu as compris où voulait aller l'entreprise. Eh ben, tu vas poser les bonnes questions. Et tu vas benchmarker 4, 5 prestataires en posant la même question au même prestataire. Et cette technique-là, elle va te permettre de comprendre comment va réagir ton prestataire. Donc, si tu veux, effectivement, aujourd'hui, tu as beaucoup d'ultra spécialistes dans l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de relations humaines. Il y a des gens avec qui le contact passe, d'autres avec qui ça ne passe pas. Donc, l'aspect humain compte encore pour moi. Si tu veux transmettre des idées, ça compte. Savoir quel type de projet ils ont mené, ça compte aussi. Donc après, voilà, je dirais qu'il faut un peu un mixte de tout. Regarder ce qu'ils ont posté peut-être aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, la manière dont ils peuvent communiquer. En fait, c'est prendre des signaux. Et il y a une chose que fait très bien l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable de capter ces signaux. Elle est capable d'aller voir en automatique, par un simple prompt, le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui est le dirigeant, qu'est-ce qu'il a déjà fait, c'est quoi ses articles de blog. Ça va déjà te donner un espèce de profil robot de cette entreprise. Et ce qui est terrible à dire aussi, c'est que tu as pourtant d'excellents formateurs qui ne sont pas des très bons communicants. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, ils ne
Oui.
sont pas très bons pour vendre leur formation, et pourtant certains sont des génies pour transmettre le savoir. Eh bien ça, on n'a pas encore trouvé la baguette magique pour trouver ces gens-là.
Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est le feeling. C'est qu'à un moment, comme on va changer, parce qu'aujourd'hui l'IA est d'une certaine forme, elle va évoluer encore. Donc c'est bien un processus de transformation. Donc il faut voir si on a un bon feeling, un bon move. C'est-à-dire le fait de dire, est-ce que finalement je le sens capable de me suivre sur mes projets? Et si je sens cette confiance partagée, alors à ce moment-là, et que la personne a un socle avec toutes les techniques que tu as données qui sont très, très intéressantes, dans ces cas-là, on se dit, on tape dans la main parce que derrière, c'est aussi et surtout une question humaine, dans la démarche. Donc, ça, c'est très important de pouvoir gérer ça. Alors, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que les auditeurs ont autant apprécié l'émission que je l'ai appréciée. Si on veut te joindre, on fait comment?
Alors, si on veut me joindre, on peut me joindre sur mon site internet. Alors, j'en ai deux, hein, si tu veux.
Très bien,
J'ai mon
super.
entreprise qui s'appelle Enco, qui est spécialisée dans l'analyse des données pour améliorer la performance des entreprises. Donc ça, je mets en place un certain nombre de processus via le numérique pour aider les entreprises à être beaucoup plus performantes. Et puis, si tu veux plutôt discuter avec moi en tant qu'homme, en tant que formateur, en tant que conférencier, ben là, j'ai un autre site internet où je présente ce que je fais en termes de discours, en termes de management, de coaching. Et là, c'est mon prénom et mon nom, c'est denisatlan.fr. Et là, tu vas retrouver les audits que j'ai mis en place, tu vas retrouver mon livre, tu vas retrouver mon étude qui est publiée aujourd'hui sur DataGouv, qui est publiée sur Harvard, sur lequel j'ai audité 200 entreprises sur 3 ans. Et voilà, je serais très heureux en tout cas de dialoguer avec toi. Je ne suis pas fait pour tout le monde. Je mets en place de l'intelligence artificielle de manière rigoureuse. Je ne suis pas un chercheur. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises à se développer commercialement. Mais voilà, en tout cas, si on a le feeling, comme tu viens de le dire, si tu as envie de développer les choses et que tu veux faire monter en compétences les gens et que tu aimes les gens, parce que ça, c'est important à l'ère de l'IA. Eh bien, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Voilà.
On ne pourrait pas dire mieux. Merci beaucoup, Denis Atlan,
Merci
et puis
Stéphane.
à très bientôt à tout le monde. Au revoir.
Merci à toi.